What do you want? Information.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I going to say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 9e épisode d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Business Insider, pardon Marie, et bonjour Marie.
Salut.
Olivier Joyard des Inrocks, bonjour Olivier.
Salut Pierre.
Et Marion Olité de Combini, salut Marion.
Salut Pierre.
Au menu, une série qui s'en va mais qui devrait rester dans les annales du petit écran, Girls, dont la 6e et ultime saison vient de débuter sur HBO et OCS City chez nous. Quelle trace laissera la comédie dramatique de Lena Dunham, autrefois autoproclamée voix d'une génération? Qu'a-t-elle dit de notre époque? A-t-elle changé l'image des femmes dans les séries et la fiction en général? Quelles sont ses réussites et ses ratés de Girls et de Boys cause de Girls? Tout de suite dans un épisode et j'arrête.
I just feel like I'm like a really perfect fit for your magazine. I don't give a shit about anything, yet I simultaneously have opinions about everything. Oh, come on. I can't believe Marnie wrote me into this.
Hi!
You think I have time for my burgeoning career to support her, like, sick little tryst? Ray has no idea and thinks he's just in a regular in-love couple. And now, she and Desi are seriously considering trying anal.
He's not getting anything up Marnie's ass.
I'm mentally ill. I'm overweight. I isolate people. Why can't someone just tell me exactly what to do in a way that makes it seem like it's my idea?
I try to reach for
all those ladies out there who, like, have jobs and purses and nice personalities, those are not my friends.
Why are you guys mad at me about Adam? Grow up!
For you to say grow up, huh? I am a grown-up.
Do you promise that we'll always be friends?
You think I'm gonna stop being your friend now? After putting up with all this bullshit?
Chers amis, commençons par l'actualité. Nous avons pu voir les premiers épisodes de cette ultime saison de Girls. Le premier a été vu sur OCS City lundi 13 février. Qu'en dire? Girls semble-t-elle partie pour réussir sa sortie? Et qui va faire notre entrée? Marie Turcan, par exemple.
Oui. Pour moi, elle a jamais vraiment craint. Enfin, elle a jamais eu cette. Je comprends qu'il y a eu une phase de plateau pour certains, mais je trouve que là, elle est vraiment. Elle incarne vraiment. On a entendu là tout à l'heure, dans le premier épisode, on disait, elle dit cette fameuse phrase, je suis la voix d'une génération. Et je pense qu'elle a jamais autant été une voix d'une génération que dans cette saison 6. Et on a pu voir les trois premiers et ça se ressent énormément. Elle arrive aujourd'hui à montrer quelque chose de cette époque, de 2016-2017, de tous les débats qui nous animent, des débats féministes, des discussions qu'il y a autour du politiquement correct, du pas politiquement correct, de ce que c'est d'être une femme, des courants de féminisme différents aujourd'hui. Et en effet, elle a vraiment réussi à mettre le doigt dessus à ce moment-là précis de notre époque.
Et ces trois épisodes, qu'est-ce que ça donne? Alors évidemment, on va essayer de respecter cette fameuse règle de ne pas balancer toute l'intrigue, de spoiler comme on dit, mais est-ce que, si on peut considérer qu'on est quand même bien rentré dans la fin de Girls, on se dirige quelque part? Est-ce qu'il y a des indications? Ou est-ce que c'est la continuité? Qu'en est-il, Marion?
Pour moi, ces premiers épisodes, c'est à l'image du meilleur de Girls. On retrouve un épisode un peu bottle, centré sur un thème en particulier. On retrouve un épisode où Anna doit expérimenter quelque chose, sans en dire trop, mais doit expérimenter quelque chose pour écrire dessus ensuite, et où elle se retrouve, comme c'est arrivé dans d'autres épisodes, d'autres saisons précédentes, elle se retrouve tellement embarquée dans son histoire qu'elle croit, elle s'invente une nouvelle vie et qu'elle s'y perd un peu et qu'elle se rend compte à la fin que non, en fait, ça va pas marcher. Mais donc on retrouve tous les thèmes chers à Girls. Et on retrouve aussi, je trouve, une certaine maturité du côté des personnages. on commence à sentir quand même la fin dans ces premiers épisodes.
C'est ce que laisse sous-entendre les bandes annonces, qu'il y a une forme, alors évidemment c'est un peu caricatural, mais effectivement de prise de conscience, de maturité, d'arriver quelque part en tout cas, même si évidemment c'est un artifice de la série que de devoir absolument arriver quelque part, Olivier.
Ouais, ouais, il y a plus d'innocence dans Girls là, ça fait quand même une ou deux saisons déjà, et moi je trouve que ces premiers épisodes, c'est la série au meilleur de sa forme, quoi. C'est très agréable de voir une série qui... pour moi, a eu des bas quand même, je trouve, un peu, Marie. Hein.
On va en parler, on va en parler, évidemment.
La saison 2, j'ai trouvé ça un peu moins bien. Saison 4, j'étais pas fan. Il y avait, quand elle est partie très loin, là, je sais.
Justement, moi, je trouvais ça assez fabuleux qu'elle puisse...
On va rentrer dans les points faibles un petit peu plus tard.
Quand même, là, je trouve que c'est comme si elle disait, voilà ce que je suis, en fait. Les premiers épisodes, c'est ça, c'est une espèce de frontalité, c'est des corps nus tout le temps, c'est une histoire où, c'est bien qu'on puisse pas raconter l'histoire, parce qu'en fait, il y en a pas vraiment, hein. Enfin, on peut se le dire.
Parce que ma prochaine question, c'était de quoi ça parlait, Girl, et c'est vrai que c'est autre
chose. On peut parler de quelque chose sans qu'il y ait une narration absolument structuré, linéaire ou ultra cadenassé comme c'est aujourd'hui le cas dans les séries. C'est ça qui est hyper agréable avec Girls, et pourtant ça parle de tellement de choses, enfin on va des sujets qu'on va aborder, mais
c'est d'ailleurs la critique qu'on a faite à Girls à chaque nouvelle saison. On disait mais en fait c'est toujours la même chose, elles ont les mêmes histoires, elles s'autodétruisent, elles sont en galère et elles vont faire un peu de la merde avec leurs copains et puis ça va repartir, et une espèce de boucle. Et alors qu'en fait, en sous-jacent, on voit une évolution, on voit que leurs carrières se sont améliorées, on voit que le personnage de Hannah a pris de l'assurance, on voit que le personnage de Marnie, même si elle a l'air de retomber dans toujours les mêmes schémas, professionnellement ça va, et en fait toutes grandissent à un moment, mais restent incapables de se laisser aller au bonheur parce que trop névrosées. Et c'est, pour moi c'est un peu ça la beauté de cette continuité de ces 6 années, c'est qu'on voit que malgré tout, elles se rendent pas compte qu'elles ont tout pour être heureuses. Elles se rendent pas compte qu'elles ont évolué positivement.
On va évidemment revenir sur tout ce que Girls a pu dire et de quoi elle a fait avancer, en quoi elle a fait avancer la télévision, etc. Mais revenir sur deux choses qui étaient vraiment le point de départ de Girls et qui a été un petit peu tous les raccourcis que nous autres journalistes y compris on a pu faire. C'était en gros, alors c'est le nouveau Sex and the City, hein, je prends ce qui a été dit au début, et c'est la fameuse voix d'une génération. Alors d'abord, est-ce que en disant que c'était le nouveau Sex and the City, qui est d'ailleurs le début du pitch hein, de Lena Dunham elle-même, est-ce qu'on se plantait? Est-ce que c'est effectivement une forme de nouveau Sex and the City? Maintenant qu'on approche de la fin, est-ce qu'on peut dire non, c'était juste pour vendre le truc?
Bah, ou déjà, est-ce qu'ils ont pas du tout le même âge que les... si on peut juste dire un peu bêtement, quoi. C'était quand même des trentenaires et des cadras à la fin de Sex and the City. Là, elle commence à être trentenaire, donc les enjeux n'ont rien à voir, l'époque n'a rien à voir, il y a que la ville et le fait que des femmes parlent entre elles. Ok, mais sauf qu'elles parlent pas pareil. Elles parlaient dans Sex and the City de manière frontale et crue, mais elles étaient pas aussi proches qu'elles le sont ici. Je pense que Girls, c'est vraiment la sororité. C'est beaucoup plus que Sex and the City. Elles prennent des bains ensemble dans Girls. Je pense pas que Miranda s'est assise sur les toilettes de Carrie pendant Sex and the City. Je crois que c'est jamais arrivé. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être.
L'amitié est très différente entre des femmes de 40 ans et des femmes de 20 ans. Et je trouve que là où il y a une comparaison à faire, c'est que Sex and the City a probablement libéré déjà la parole sur la parole féminine sur le sexe. Mais Girls a été beaucoup plus loin en montrant les corps. Et c'était une série qui a été, voilà, plus loin en termes de des pratiques sexuelles féminines, de aussi de montrer évidemment des corps non standardisés comme celui de Lena Dunham qu'elle a imposé épisode après épisode
et dont on va reparler. D'abord, juste pour boucler ce que je disais, la voix de la génération, oui, non, ou est-ce que c'était juste une bonne blague du premier épisode et après on a bien compris? Marie, t'avais pas l'air de cet avis, t'avais l'air de dire que c'est vraiment la voix d'une génération, c'est bien quand sûr, même avant tout la voix de Lena Dunham. Non,
en fait, je vais profiter de cette parole pour revenir sur le point Sex and the City. Maintenant, quand on le regarde à l'aune de notre évolution, notamment féministement parlant, Sex and the City, elles sont quand même vraiment normées, vraiment sous une influence patriarcale, en fait sous couvert de dire God Miché et de dire clitoris, font mine de s'émanciper, alors qu'en fait elles se définissent très principalement par les hommes. On a très peu d'histoires homosexuel. Je sais que tu as été plus défenseur de Sex and the City que moi.
C'est plus varié que ça, en fait.
Je pense que pour l'époque, c'est pas forcément malin de le regarder aujourd'hui, à travers le prisme d'aujourd'hui, il y a 10 ans. Mais donc, aujourd'hui, on peut dire que Girls, un peu, en tout cas, ce qu'elle représente, elle représente un peu ce que Sex and the City représentait en 98. Mais aujourd'hui, on est un peu plus loin.
Juste sur ça, Sex and the City est écrite par des hommes, hein, quand même. C'est la grande, grande différence, je pense, hein. certes des hommes gays, mais elle était écrite par des hommes. Et non, mais c'est vrai, c'est un regard différent, c'est une
parole différente. Darren Star, a commencé par Darren
Star. Et puis Michael Patrick King, mm-hmm. mais c'était qui a été le showrunner pendant plusieurs saisons. Donc je pense que vraiment, enfin pour moi, le point de vue en fait n'est pas du tout le même.
Et la voix de la génération alors.
La voix de la génération. Lena Dunham. Pourquoi c'est toujours la voix de quelqu'un. Une série en soi, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas dire des choses qui sont plus grandes qu'elle et dans lesquelles chacun peut se reconnaître. C'est un peu bateau de dire ça.
What's going on? We're having a group meeting.
Well, I don't want to have a group meeting.
Yeah, I don't want to have a group meeting either.
That's probably about the only thing we can all agree on. Step into far into the
place. Regardless of everything that happened, you are still my dear friend.
I don't think we ever acted like friends.
That got real fast.
I don't want our friendship to end.
Here. It can be pretty hard to have observations about other people when you're only thinking about yourself.
I would know.
Marie, tu disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de plus normé dans Sex and the City. Lena Dunham, évidemment, on va en parler, c'est le cœur de Girls. Mais que dire des autres personnages féminins? Est-ce qu'on pourrait quand même se dire qu'en point de vue de normes, elles le sont peut-être un peu plus que Lena Dunham? Quid des Girls au pluriel? Donc, même si, évidemment, on va s'arrêter plus longtemps sur Lena Dunham.
Bah, si tu dis ça, on pense tout de suite à Marnie, mais on pense pas... alors que les autres, je pense que c'est un cas à part. Si tu prends Jessa... Et Shoshana, c'est quand même pas des personnages que j'avais vus avant. Jessa qui est vraiment très autodestructrice et en même temps un côté artiste qui définit sa vie et sa relation avec Adam le montre bien. Je vois pas du tout de normer là-dedans. Mais même Marnie, au final, on a l'impression qu'elle est normale, mais derrière ça, on n'a jamais vu un personnage magnifique, être aussi ridiculisée, par exemple, ce qui nous a extrêmement surpris au départ. Elle était là.
Donc une sorte de retournement d'un canon de beauté.
Elle est incroyable. Elle fait du chant. Elle a son groupe de musique. Elle est super. Et en fait, elle est toujours tournée en ridicule. Et ils arrivent à nous tourner ça en ridicule. Et c'est un peu aussi la beauté de cette série, c'est de réussir à nous faire détester tous ces personnages sans tomber dans le panneau et sans tomber à l'extrême, parce que au final, elles sont nous.
Ouais, j'adore Marnie. Elle est oui, Marnie, c'est moi comme l'autre, mais j'adore parce qu'elle est totalement normative. Elle se marie, mais en même temps, on n'a pas le droit de le dire, mais finalement, son mari devient presque un amant, en fait. Ça se retourne complètement. Elle fait un peu n'importe quoi, et en même temps, elle recherche son plaisir sexuel, peut-être plus que tous les autres personnages. Donc, moi, la question de la norme dans Girls, elle se déplace tout le temps, quoi. Et puis, il y a plein de façons de parler de normes. Il y a comme les personnages sont écrits, il y a comment ils sont filmés aussi. Et là, dans Girls, on peut dire que les normes, elles sont explosées, là, de ce point de vue, sur la façon de filmer les corps.
Alors parlons évidemment d'Anna, le personnage principal interprété par Lena Dunham, et on va pas parler tout de suite de, on va pas tomber dans le panneau de commencer par parler de son corps. On va parler d'abord du personnage lui-même, même si elle l'a beaucoup montré son corps et que ça a son importance. En quoi elle a changé par sa voix, par son caractère, par ses décisions, l'image qu'on pouvait avoir des personnages féminins dans les séries, Marion?
Lena Dunham a créé un personnage qui n'est pas d'ailleurs Lena Dunham, c'est toujours bon de le rappeler parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent pas trop à faire la différence entre les deux, mais elle a créé un personnage complexe, un personnage qui peut être cruel par moment, qui peut être manipulateur par moment, qui peut être aussi généreux, qui malgré tout s'intéresse aussi beaucoup aux autres. Elle a aussi créé un personnage pour qui l'amitié féminine c'est quelque chose de fort. Elles sortent au début de la série, elles sortent de l'université et elles sont encore en totale codépendance les unes avec les autres, surtout Marnie et Anna. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas encore vues à la télévision. C'est des personnages complexes qui prennent des fois des terribles décisions. Et Anna aussi, on en parlera sans doute dans un autre podcast, mais on voit aussi ce personnage avoir des troubles mentaux. Ça, c'est des choses qu'elle propose un personnage féminin qui est hyper différent de ce qu'on a pu voir à la télévision.
Et qui vocalise tout ça, on l'a entendu hein, dans la première bande-annonce de cette émission, elle dit j'ai des problèmes mentaux, quoi. Et ça aussi c'est important, cette espèce de mise en avant de cette espèce de d'hyper, et même par son langage, par la façon dont elle est tout le temps en train de parler d'elle, de s'expliquer, de se justifier, enfin voilà, d'être dans une espèce de démarche d'auto-analyse permanente, je sais pas si c'est le bon mot.
Mais c'est là où je place le curseur de la détestation qu'on a eu, que certaines personnes ont pu avoir vis-à-vis d'Anna, c'est que c'était enfin un personnage de féminin qui parlait d'elle. Et oui, elle parle beaucoup d'elle, mais en fait, elle parle d'elle. Et dans les séries et dans les films, c'est pas courant d'avoir le point de vue d'une femme et de savoir ce qu'elle ressent. Et c'est pas bien vu, une femme qui a des troubles ou une femme qui souffre et qui est pas forcément une bonne personne. Et Lena Dunham a quand même réussi ce tour de force de créer un personnage qui la met pas du tout en valeur. Et tout en... Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une bonne partie d'elle quand même qu'elle met en scène.
Le bord de l'autofiction.
Oui,
quand même,
voilà.
Pour l'avoir croisé en vrai, c'est vrai que ça peut être troublant, mais bon, après, on fait toujours un transfert en tant que téléspectateur sur le personnage.
Il y a une honnêteté très frontale et je trouve, enfin, se mettre à nu de la sorte et accepter, parce que elle a quand même ce regard sur elle-même et cette autodérision, parce qu'elle sait que l'image qu'elle va renvoyer sera une image mauvaise, mais elle le fait quand même et parce qu'elle sait que ça va dire quelque chose.
Mais moi, je suis d'accord, et on peut même dire c'est sexiste en fait de considérer que le personnage que Anna soit un personnage agaçant ou enfin, on dit pas ça de Louis C.K., on le trouve genre drôle, mélancolique, dans une espèce de sphère un peu différente de l'expérience humaine, et Anna, on la trouve agaçante. Donc c'est ça qui est un peu... Moi, je comprends pas du tout pourquoi.
C'est parce qu'on avait jamais vu des personnages
Oui, mais on a le droit quand même de considérer qu'en tant qu'être humain, femme ou homme, etc., que parfois... Enfin, que elle est parfois... Elle, le personnage peut être un peu une...
C'est un rapport, je dirais... je sais pas comment dire les choses, mais c'est trop... C'est le premier degré des séries pour moi. C'est-à-dire, si on commence à ne dire qu'on aimait que les séries dont on aime les personnages, on n'aime plus les séries depuis 20 ans, en fait. Enfin, tu vois, il y a un moment où ça se construit. En fait, c'est une anti-héroïne comme les autres, sauf qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres avant elle.
Et est-ce que... Alors, moi, c'est un des reproches que j'ai fait à la série, puisqu'on commençait à faire des reproches, et après, on va évidemment revenir à ce débat qu'on avait. Il y a quand même un moment, surtout la saison 2, où le S de Girls a quand même sérieusement fadi. On voyait plus assez les autres personnages. On est d'accord qu'il y a un moment où Anna a un peu écrasé tout le monde, et que ça a été un des grands défis de Lena Dunham, ça a été de trouver un équilibre entre son personnage et celui de ses camarades.
Moi, je l'ai toujours moins vu comme une série chorale que Sex and the City, par exemple. Je pense que j'ai toujours vu. Pour moi, c'est Anna qui projette Anna sur différentes personnes, et chacune est une facette d'elle. Et en plus, dire que c'est une série sur les amis, je suis même pas si sûre. On a entendu beaucoup de sons en rapport avec l'amitié. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment amie. Et c'est marrant, dans la saison dernière, elle a ce moment avec Jessa où elle dit, mais tu veux plus être mon amie ou quelque chose comme ça. Alors que ça faisait deux saisons qu'on se disait qu'en fait, elle s'entendait plus, qu'elle se parlait plus. Et ça remet en cause aussi le principe des relations humaines. Et qu'est-ce qui fait qu'on est amie avec quelqu'un? Est-ce que c'est un lien indéfectible? Est-ce qu'on peut être amie avec quelqu'un qu'on aime plus ou qu'on n'aime pas vraiment?
Ça, justement, si tu te poses toutes ces questions, c'est parce que la série, elle parle des relations amicales entre des femmes, et que on en avait jamais parlé comme ça avant, et que on peut avoir effectivement des amis qu'on voit une ou deux fois dans l'année, avec qui on s'est engueulé, puis en fait se rabibocher après. Il y a aussi une scène, la dernière scène de la saison 5, entre Adam et Jessa, où Jessa en veut énormément à Adam d'avoir bousillé son amitié avec Anna, et où elle lui dit Anna, pour l'instant on ne se parle pas, mais j'espère vivement que ça va changer dans l'avenir. Donc pour moi, même si leur amitié, elle n'est pas toujours, je suis d'accord, elle n'est pas toujours au centre du tout de Girls, et on peut avoir l'impression des fois qu'elles ne sont plus amies. Malgré tout, c'est un thème qui revient vraiment souvent, je trouve, pareil, entre Anna et Marnie dans cette saison. Il y a une scène aussi entre elles où Marnie demande à Anna, mais est-ce qu'on sera toujours amies? Donc malgré tout, ça interroge ses relations.
Je trouve que ça montre l'obsession de l'amitié. Ouais. Et le fait qu'on recherche ça plus comme un idéal que comme une vraie relation concrète. C'est ça que je trouvais touchant.
Alors, est-ce que c'est un non-sujet, ou est-ce que c'est un sujet, le corps de Lena Dunham? Est-ce qu'on en parle, ou est-ce que c'est pas... Voilà. Et en quoi c'est important, le fait qu'elle se soit mis à nu, souvent, voire très souvent, ce qui a pu lui être reproché dans certaines circonstances, mais qui est aussi porteur d'un message, certainement.
Je pense que Lena Dunham serait très mécontente que tu demandes si on parle de son corps ou pas, parce que justement, elle est là pour le montrer, et que c'est exactement ce qu'elle veut. Et ce serait, c'est curieux de se demander pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas. Est-ce que parce qu'on en a trop parlé, ou parce que est-ce qu'on en revient toujours à ce même sujet, qui est on n'a pas envie de trop parler des femmes qui se montrent ou qui parlent trop, ou qui... c'est assez étrange.
Si, c'est parce que elle le met en scène, donc c'est le sujet de la série. Enfin, c'est pas comme si on parlait d'autre chose que de ce dont parle la série, en fait. Elle s'est toujours montrée nue depuis le pilote. Là, dans la nouvelle saison, ça prend des dimensions encore plus frontales, je dirais. Il y a une scène assez magnifique sur un balcon, enfin une scénette, avec du soleil et un maillot de bain, etc. Mais donc on n'a pas le droit de la raconter, donc on ne va pas la raconter. Mais donc c'est quand même le. Elle a, comment dire, elle s'est montrée sous toutes ses coutures. Et puis elle, donc franchement, moi j'avais jamais vu une femme comme ça à la télévision, et même au cinéma, c'est quand même extrêmement rare. Donc rien que pour ça, Girls restera dans l'histoire pour moi.
Alors avant de justement de parler en quoi Girls va rester dans l'histoire, un mot quand même de personnages qu'on n'a pas du tout nommés depuis le début de ce podcast, les personnages masculins. Qu'en est-il ? Moi, en tant qu'homme, j'ai trouvé particulièrement juste le portrait qui était fait des personnages masculins. J'ai beaucoup aimé Ray, que j'ai trouvé particulièrement attachant. J'ai trouvé Adam ou Adam, selon, tout à fait fascinant. Ça serait réducteur de dire que Girls, c'est que Girls, c'est Girls and Boys, les rôles masculins sont hyper importants et pas seulement des miroirs de la réflexion de Lena Dunham, on est d'accord.
Oui, c'est là l'un des tours de force en fait de Lena Dunham, c'est d'avoir fait une série qui est sur les femmes et qui le fait très bien et qui a repoussé les limites dans ce sujet-là, mais elle n'a pas oublié les hommes en fait. Elle fait des portraits masculins qui sont hyper touchants et Adam par exemple est un personnage qui évolue énormément entre la première saison, si vous regardez les premiers épisodes, et la saison 6, il a énormément changé. Ray est hyper touchant, on le voit pleurer dans la saison 2, elle montre aussi des hommes de façon réaliste comme elle le fait pour les femmes. Et ça, c'est très important justement parce que cette série, elle n'a pas opposé les hommes et les femmes. Elle montre des évolutions réalistes de part et d'autre.
Tu me demandes mon avis.
Non, j'en sais. Oh là là, je regarde moi, je la table.
Je suis d'accord. J'aime bien Daisy aussi, qui est complètement fou.
Le oui, mari, extrême. Le mari. Je ne sais pas s'il est très réaliste, mais il est très drôle.
Justement, ça marche. Alors, quoi.
Justement, où mettre Girls sur le curseur pure comédie, vision réaliste, où se situe cette... En même temps, ça doit dépendre du quotidien de chacun, mais c'est vrai qu'on l'a accusé, ça a été une des critiques qui a été faite contre Girls, c'était qu'on voulait nous montrer la jeunesse qui galère, mais que bon, on en a vu qui galère quand même nettement plus. Est-ce que c'est avant tout une série de philosophie, si j'ose dire, ou une série aussi de la réalité new-yorkaise de cette jeunesse?
Ah oui, d'accord. Parce que je croyais qu'il y avait deux questions. Il y a la question, est-ce que c'est une comédie ou un drame? Mais là, on touche à beaucoup
plus large.
Non,
ça, oui. Et puis c'est une comédie dramatique. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est réaliste ou c'est plutôt une projection dramatique, bigger than life, comme on dit?
Je trouve ça très compliqué de cette notion, de cette critique du réalisme, de dire qu'un personnage est réaliste. Vous dites que les personnages masculins sont réalistes. Franchement, moi, Adam, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Il ne correspond pas à ma réalité. Présente-moi tes amis, j'ai trop hâte de les revoir. C'est un argument que je trouve très très difficile à définir et qui est pas forcément très pertinent en termes de moi. Ce que je cherche dans une série, c'est pas qu'on me parle que de mon quotidien, c'est qu'on essaye d'aller un peu au-dessus. Girls, elle a un pan totalement poétique qui fait qu'on s'élève un peu tout en parlant de choses extrêmement concrètes
Ouais, et un pan contemporain. C'est un peu ce que tu disais au début. Ça nous parle d'aujourd'hui. Là, ça parle de 2017. C'est ça. Du coup, c'est aussi une série féministe, par exemple, plus qu'une série réaliste. Enfin, je crois que même dans cette saison 6, je pense qu'elle le sait plus qu'avant. Je pense que ça, c'est vraiment la grande transformation de Girls. C'est qu'au début, elle balbutiait peut-être un petit peu ce discours-là, ou en tout cas, je suis pas certain qu'elle assumait complètement la place qui est la sienne aujourd'hui, culturellement. Il y a un épisode qui est l'épisode 3, qui parle des hommes de pouvoir et de la façon dont ils peuvent en abuser, notamment sexuellement. Donc il y a une question d'agression sexuelle. Ça parle, sans en parler, de Woody Allen, de Polanski. C'est un épisode génial pour moi, peut-être un des meilleurs de toute la série. Et donc c'est en ça que Girls, moi, me fascine aujourd'hui.
Alors je tentais série réaliste, série philosophique, en fait série politique, et si oui, à quel degré? Est-ce que c'est juste parce qu'elle a montré, ou est-ce qu'il y a un propos? Olivier sous-entendait que c'est un propos qui s'est construit au fur et à mesure, mais est-ce qu'il a employé le mot féminisme? Allons-y, puisqu'on approche du terme de ce podcast. Est-ce que oui, c'est une série féministe, et à ce niveau-là, comment, pourquoi et en quoi elle apporte vraiment une pierre à l'édifice d'une revendication politique, employant le mot concrètement?
Olivier a bien dit, on est dans là la saison 6, elle est magistrale d'aboutissement de la réflexion féministe et de sa position aujourd'hui. C'est qu'en fait on en regardant cet épisode, elle devait prendre position, et quand tu regardes cet épisode 3 qui est fabuleux, tu sais pas ce qui va se passer jusqu'à la fin, et tu sais pas vraiment quelle position elle va prendre, et à la fin elle prend position, et c'est là où on se dit bah oui, t'as compris ton rôle. Et je suis pas sûre qu'il y a cet épisode il y a 6 ans, il serait peut-être fini un peu avant, on n'aurait pas eu cette chute, et elle aurait pas dit autant. Là sans spoiler,
on dira pas.
Voilà. Mais elle a accepté son rôle, c'est vrai. Et quand tu rencontres Jenny Connor aussi et Lena Dunham ensemble,
la productrice,
c'est sa productrice, mais elles sont vraiment
co-showrunneuses.
Ouais, voilà, elles travaillent tout le temps ensemble. Et Jenny Connor est une femme un peu plus âgée qui a un grand background féministe justement, et qui a elle beaucoup de réflexions très abouties. Et on sent que maintenant c'est l'heure. Et c'est ça que je veux dire par le thème contemporain et 2017, c'est qu'en fait maintenant on peut plus permettre de pas prendre position. On a le droit, enfin on a le droit et presque le devoir de plus dire bah moi j'ai pas envie de dire féministe parce que bah c'est un terme qui est pas très joli et les gens ils aiment pas. Bah non, maintenant on peut le dire et il faut le dire parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses aussi. Donc oui, il y a très clairement un propos politique.
Un dernier mot, une dernière question. On passe un peu du coq à l'âne, mais il faut au moins prendre une seconde. En plus, on l'a effleuré au tout début de l'émission et finalement, hop, on est passé à dire quand même les grandes qualités de cette série. On est d'accord que tout le monde autour de cette table a aimé Girls. La preuve, on l'a regardé jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, on la regardera jusqu'au bout. Si on devait souligner quand même les ratés, s'il y en a eu, là où moi, d'ailleurs, je les ai manifestés pendant ce podcast. Hein. J'ai trouvé des fois que Lena Dunham se regardait beaucoup, elle avait du mal à voir ses autres personnages et que il y avait des saisons plus faibles que d'autres et que j'ai parfois été j'ai eu une réception avec certaines perturbations et à réceptabilité variable à son message. Qu'en est-il de vous? Qu'est-ce qui vous a peut-être frustré ou déçu au fur et à mesure de ces saisons de Girls?
Moi, la seule chose que je qualifierais de vrai défaut dans Girls, c'est le manque de diversité. Ça, Lena Dunham en a parlé récemment en disant qu'elle ne ferait plus jamais une série avec quatre héroïnes blanches à sa tête. Donc, elle en a conscience. Elle avait essayé de répondre un peu à ces critiques-là en début de saison 2 en ayant une mini-histoire avec un personnage noir. Mais bon, ça avait été un peu, comment dire, mis de côté au bout de deux épisodes. Donc ça, c'est pour moi le gros défaut de Girls. Après, en termes de narration, non, parce que on l'a déjà dit, c'est l'histoire de quatre nanas qui ont 20 ans, qui vont évoluer, qui vont faire des pas en arrière, qui vont faire des pas en avant, qui vont apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître leur sexualité au fur et à mesure. Et du coup, de ce côté-là, voilà. Moi, le seul vrai défaut, c'est le manque de diversité.
Olivier ?
Moi, je vois pas d'énormes défauts sur la durée. Peut-être un peu un manque d'ambition romanesque. J'aurais voulu qu'on m'entraîne peut-être plus dans des grandes histoires au long cours, même si elles se dessinent maintenant. Enfin, par exemple, je me suis mis à adorer Anna encore plus quand elle a eu des problèmes avec, quand Adam est sorti avec Jessa. J'ai l'impression de parler du miel et des abeilles. Il y a eu à ce moment-là quelque chose d'un déchirement vraiment assez beau et réaliste qui prenait sa source sur plusieurs saisons. Et c'est peut-être ça dont a un peu manqué Girls. Et j'espère que la sixième saison sera vraiment appuiera là-dessus.
Marie ?
Oui, on parlait des saisons 2 et 3, je pense que ça devait être ce moment de redondance un peu, où on avait l'impression de tourner un tout petit peu en rond et moins s'élever que ce que j'imaginais. Mais Marion a un très bon point sur la diversité, mais ce qui m'interroge, c'est que j'avais pas vu qu'elle avait dit qu'elle voudrait plus jamais faire de série avec des héroïnes blanches, parce que c'est pas du tout ce qu'elle avait dit il y a justement 3-4 ans, quand on lui était tombé dessus, elle disait, moi j'écris sur mon quotidien et mon quotidien c'est que des blancs. Et donc,
c'était une pas défense forcément... qui est tout à fait acceptable.
Ça dépend de quel point de vue. Ouais. Mon point de vue très personnel, ça l'est pas, mais je peux le comprendre. Et du coup, c'est marrant qu'elle ait changé d'avis maintenant, et ça m'aurait intéressé de voir le.
Ouais. Lena Dunham, elle évolue tout le temps en fait dans sa réflexion. C'est ça qui est intéressant et qui la rend hyper énervante des fois aussi. Oui,
c'est tout construit et on sent. Voilà, il y a une envie de prendre position plus qu'avant.
Ça, c'est sûr.
I want to write stories that make people feel less alone than I did. I want to make people laugh about the things in life that are painful.
So do you think you're into this surf piece?
The surf piece is like all I've ever wanted to do. I do feel like I need to warn you that I hate and am maybe allergic to sand.
Oh, that's great. I love that.
Also super against sun, super against sunscreen, not into drinking water, and not into watching people have fun.
Voyons voir ce que le public de Un épisode et j'arrête en pense. Vous êtes fan de Girls, vous trouvez au contraire que nous avons été bien trop gentils. Vous avez des choses à ajouter, des questions à nous poser, c'est à vous de jouer. Bonsoir mademoiselle.
Bonsoir. Je voulais juste revenir, vous l'avez dit, mais je voulais juste réinsister sur ce point parce que pour moi c'est hyper important. C'est une série où effectivement, c'est quatre filles, mais au niveau de l'amitié en fait, c'est pour ça que c'est très réaliste, c'est que pour une fois on est dans une série où on se dit pas que les nanas elles ont besoin d'être tout le temps copines et si elles s'engueulent elles se réconcilient au bout d'un épisode. Ça peut durer des saisons, il y a des histoires qui se trament et tout. Et ça a donné, je trouve, une nouvelle dynamique aux séries et ça a permis vraiment d'avoir une vision beaucoup plus réaliste de ce qu'est l'amitié, notamment l'amitié féminine aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste revenir sur ce point parce que ça me semble pour moi hyper central dans Girls et vraiment quelque chose qui a changé pas mal de choses.
Donc vous êtes d'accord avec Marion plutôt là-dessus. Comment vous avez vu, vous, concrètement dans les personnages, parce que c'est vrai que on voit bien ce que vous voulez dire, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes dit la vache, ça ressemble à ma vie, ou ça ressemble à mes amitiés, ou ça ressemble à ce que devrait être à la télévision les amitiés entre les femmes?
C'est surtout le truc de se dire on peut s'engueuler et se rabibocher au bout d'un an ou deux ans sur un autre truc et se retrouver des points communs et justement pas être dans ce truc un peu bisounours où c'est on s'engueule mais quand même on s'aime très fort alors on se retrouve. Non, parfois il y a des engueulades qui sont vraiment fondamentales et qui font qu'on peut couper un lien mais tout en gardant vraiment une connexion importante avec avec les gens autour de nous. Et justement c'est aussi en ça que c'était intéressant, c'est qu'on pouvait continuer à voir évoluer les personnages et nous en tant que téléspectateurs à s'attacher aux personnages en les voyant grandir parfois séparément aussi et sans être tout le temps ensemble quoi.
Merci beaucoup. Et on termine là-dessus cette 9e émission de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries, la CS, consacrée à Girls, dont la 6e saison est diffusée chaque lundi soir sur OCS City en France. Merci à Marie Turcan de Business Insider, cette fois-ci j'y arrive, Marion Olité de Combini et Olivier Joyard des Inrock. Merci aussi à Jules Croc qui était à la technique et merci au public de l'antenne de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous. L'Association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on reviendra en France pour débattre du retour de Cable Kitchen et de la place ou pas qu'occupent la comédie et le format de 26 minutes sur notre télé nationale. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.